Dans le chapitre 6 de l'Évangile, l'apôtre Jean nous raconte l'histoire de la multiplication des pains et des poissons, le seul miracle qui se trouve dans les quatre Évangiles. A priori, il avait davantage impressionné les disciples qu'une guérison extraordinaire ou même la résurrection de Lazare qui sera décrite plus loin. Dans l'Ancien Testament, un des prophètes avait lui aussi fait un miracle semblable pour nourrir environ 100 hommes. Mais ici, il faut compter 5000 hommes, donc au moins 15 000 personnes en comptant les femmes et les enfants. Peut-être est-ce cette très grande foule affamée et nourrie qui a marqué l'esprit des évangélistes au point où chacun d'eux a rapporté cet événement dans leur récit. Jésus faisait des prodiges et les gens venaient à lui pour trouver la satisfaction de leurs besoins physiques. Mais rares sont ceux qui ont reconnu être spirituellement décadents et rares sont ceux qui cherchèrent son pardon. Je continue le récit de la multiplication des pains. « Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. » Verset 10 à 11. Nous savons, d'après un autre évangile, que c'est par rangées de 50 et de 100 que ces 5000 hommes s'assirent. C'était pour faciliter le décompte de cette foule et la distribution de la nourriture. Sans aucun doute, ceux qui se connaissaient s'assirent ensemble parce qu'ils venaient du même coin et on pouvait les reconnaître grâce à leur robe typique. Puis, un peu plus loin, les femmes et les enfants firent de même. C'était comme ça dans leur culture. De la colline en face, cette foule bariolée assise sur l'herbe bien verte en cette saison ressemblait à un travail de patchwork. Nourrir une foule de 15 000 personnes avec 5 petits pains et 2 poissons est évidemment impossible. Mais si vous considérez que c'est Jésus qui est l'ordonnateur du repas, alors tout devient possible. C'est en tant que bon berger que Jésus allait agir et prendre soin de ses brebis. Dans un premier temps, il allait satisfaire leur faim, puis ensuite s'occuper des besoins de leur âme par son enseignement sur le pain de vie. Il se comportait à l'image d'un psaume de l'Ancien Testament, écrit par le roi David et dont je cite le début. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Fin de citation. Étant donné que l'endroit était désert et que c'était l'époque de la Pâque, Jésus se trouvait dans une situation semblable à celle de Moïse lorsqu'il s'est lui-même retrouvé avec sur les bras le peuple d'Israël affamé et qui se plaignait de son sort alors qu'il cheminait en direction du mont Sinaï. Eux aussi, à cette époque, avaient eu besoin d'être nourris de façon miraculeuse. Je continue le texte. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Verset 11. Jean ne décrit pas le miracle proprement dit. Rendre grâce avant et après les repas constituait la norme parmi les Juifs pieux. Jésus, agissant comme l'hôte du repas, celui qui invite, prononce la bénédiction habituelle sur les 5 pains et les 2 poissons. Il regarde au ciel, considéré comme la demeure de Dieu, en dépendant du Père pour fournir miraculeusement la nourriture. Puis vint la distribution. Au fur et à mesure que les disciples donnaient le pain et les poissons, la multiplication s'accomplissait. Les paniers ne se vidaient jamais. Je continue. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Versets 12 à 13. Jean, comme les autres évangélistes, souligne le fait que non seulement ces milliers de gens furent rassasiés, mais qu'il y avait du surplus. Ce détail ne veut pas évidemment dire que Dieu s'est trompé dans ses calculs et a créé trop de nourriture, mais montre plutôt qu'un très grand miracle s'est produit. Dans cette foule, c'est sûr qu'il y avait des gens qui mangeaient rarement à leur faim, car à cette époque, la disette était monnaie courante. Certains érudits ont tenté de trouver une explication à ce prodige en disant qu'il s'agissait simplement d'un repas sacramentel ou symbolique, un peu comme quand on prend la communion dans une église ou dans un culte catholique protestant. Mais même si chacun n'avait reçu qu'un petit bout de nourriture, 15 000 personnes, ça fait du monde. Il aurait quand même fallu des pleins paniers de pain et de poisson. D'autres essayent de dire que le miracle, c'est que les gens ont partagé la nourriture. Il y en a même certains qui sont allés jusqu'à soutenir des histoires les plus invraisemblables. Par exemple, que le groupe de disciples avait tout préparé d'avance avec la nourriture cachée dans une grotte. Au moment voulu, ils mirent tout ça incognito sous la robe de Jésus d'où il tirait pain et poisson pour chaque personne. Et voilà un beau tour de passe-passe. La crédulité des incrédules laisse songeur. Les 12 paniers qui restaient n'étaient pas composés de boue épars, de morceaux à moitié mangés, mais de pain et de poisson non entamés et qui serviront à un autre repas. On suppose que les disciples les ont mis de côté pour plus tard. Le fait que Jésus voulait ramasser tout ce qui n'avait pas été consommé faisait partie de l'éducation de ses futurs apôtres. C'était pour leur faire comprendre que Jésus était plus que suffisant pour combler leurs besoins. Il faut garder à l'esprit que bien qu'ils fussent en compagnie du Seigneur jour et nuit, sur le plan spirituel, ils étaient tout autant aveugles que les foules. Je continue. Lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent, « Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde !» Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. Versets 14 à 15. Voyant ce miracle tout à fait extraordinaire, les gens se sont rappelés que Moïse avait prédit que Dieu susciterait un prophète comme lui. Or, il avait lui-même nourri le peuple d'Israël et l'avait conduit hors de l'esclavage égyptien. De là à faire un rapprochement, le pas était facilement franchi. La foule venait d'assister à la multiplication des pains et des poissons et croyait que le Seigneur, avec son pouvoir surnaturel, pourrait les débarrasser des Romains. En conséquence, les gens voulait le faire roi de force. Cette étape marque le point culminant de la popularité de Jésus et constitua peut-être bien une tentation pour lui. Il faut en effet se rappeler que Jésus était aussi 100% homme et qu'il a été éprouvé comme vous et moi. Il savait que le royaume lui serait donné par son Père et ne lui viendrait pas de ce monde. Le chemin de la volonté de Dieu empruntait une autre direction, celle de la croix. C'est pourquoi il refuse le rôle qu'on veut lui donner, celui d'un Messie qui prendrait le pouvoir en libérant Israël de l'oppresseur par la force. S'il ne refuse pas les titres messianiques qu'on lui attribue, il doit souvent en redéfinir le contenu. Son royaume n'est pas de ce monde et son chemin doit passer par la souffrance et la mort. Avant de devenir le lion souverain de Juda qui est prophétisé, il doit d'abord être l'agneau qui porte le péché du monde. Je continue. À la tombée de la nuit, ses disciples redescendirent au bord du lac. Ils montèrent dans un bateau et se dirigèrent vers Capernaüm, sur l'autre rive. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Versets 16 à 17. Un autre évangile nous donne davantage de détails. Ainsi, nous savons que Jésus ordonna à ses disciples de prendre la mer pendant qu'il renverrait la foule. Ils étaient sur la rive est de la mer de Galilée, où le terrain est élevé, accidenté et vallonné. Quand ils prirent le large, le soleil se couchait et le vent se leva. Jésus était monté sur une montagne pour y prier, loin de toute activité humaine. C'est alors qu'il les vit au loin peiner pour avancer contre une mer démontée. En fait, il s'agissait d'une tempête particulièrement violente qui s'était soudainement abattue sur le lac. Je continue. Un vent violent se mit à souffler et le lac était très agité. Les disciples avaient déjà parcouru 5 ou 6 kilomètres quand ils virent Jésus marcher sur l'eau et s'approcher de leur bateau. L'épouvante les saisit. Versets 18 et 19. Là aussi, les sceptiques, les incrédules et les crédules ont essayé d'expliquer que la barque était amarrée, que Jésus en fait marchait sur de la terre ferme comme un banc de sable ou encore qu'il flottait sur une grosse bille de bois. En réalité, ce lac est particulièrement profond. Ce n'est pas un étang. Là où il se trouve, à 5 ou 6 kilomètres au large, il y a au moins 100 mètres de fond. Le vent d'ouest, qui se lève souvent le soir, a surpris les disciples au beau milieu du lac. Ils doivent faire face à un gros grain et ils sont seuls, sans le Seigneur. La mer de Galilée est réputée pour ses brusques et rudes coups de colère. Jésus les savait en difficulté. Alors en pleine nuit, car il est plus de 3 heures du matin, il décide de prendre le chemin le plus court et marche vers eux. Dans ce miracle, Jésus n'offrait aucune prise aux éléments et se déplaçait comme le ferait un faisceau de lumière à la surface de l'eau. Il est tout à fait compréhensible que les disciples s'imaginent voir un fantôme parce qu'en fait, la silhouette de Jésus se détachant de la surface de l'eau y ressemblait et se comportait comme tel. Il est intéressant de noter que le Seigneur n'est pas allé tirer ses disciples d'embarras dès qu'il les a vus se débattre au tout début de la traversée. Au lieu de cela, il a continué à prier jusqu'au milieu de la nuit avant de finalement décider d'intervenir. Après avoir combattu les éléments pendant des heures et sur le point d'être vaincu, les disciples ont dû apprécier d'autant plus l'intervention de Jésus car ils avaient épuisé toutes leurs ressources. C'est comme ça dans la vie aussi. Les croyants appellent Dieu à l'aide, le voient rarement se manifester immédiatement. Il leur faut être patient et persévérer jusqu'à ce que le Seigneur réponde. Je continue le texte. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur !» Ils voulurent alors le faire monter dans le bateau, mais au même moment, ils touchèrent terre à l'endroit où ils voulaient aller. Versets 20 et 21. Jésus s'identifie, mais dès qu'ils veulent le faire monter, ils se retrouvent soudainement à bon port, là où ils voulaient se rendre. L'expression « au même moment » utilisée par Jean indique qu'ils ont parcouru les 5 à 6 kilomètres qu'il leur restait à faire instantanément, avec ou sans la tempête. Il s'agit d'un nouveau miracle tout aussi extraordinaire que le précédent. Je continue. Le lendemain, ceux qui étaient restés sur l'autre rive se rendirent compte qu'il n'y avait eu là qu'un seul bateau et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples, ceux-ci étant repartis seuls. Entre-temps, d'autres bateaux étaient arrivés de Tibériade, près de l'endroit où toute cette foule avait été nourri après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capernaüm, à la recherche de Jésus. Versets 22 à 24. Dans ce passage, c'est la première fois que l'apôtre Jean appelle Jésus-Christ le Seigneur. Jusqu'à présent, il l'appelait Jésus, son nom humain parce qu'il nous le présente comme la parole faite chair. La foule qui avait été nourrie par Jésus était toujours du même côté de la mer. Les gens virent le Seigneur obliger ses disciples à monter dans la seule barque qui se trouvait là. Ils pensaient donc qu'il était toujours dans leur secteur. Ce n'est que le lendemain qu'ils se rendirent compte qu'il n'était plus là. Alors, ils décidèrent de partir à sa recherche en face dans la région de Capernaüm. Pour cela, il leur fallait traverser le lac. Je continue. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux, non. C'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Versets 25 à 26. Ceux qui, finalement, retrouvent Jésus lui demandent « Quand es-tu venu ici ?» Ce qui signifie qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Comment Jésus s'est-il retrouvé en face de l'endroit où il avait accompli la multiplication des pains? Il ne répond pas à leurs questions. Quand et comment il a traversé le lac, le double miracle de sa marche sur les eaux et du bateau qui s'est subitement trouvé à bon port, est un signe réservé aux disciples seulement. Jésus commence son enseignement par ces paroles solennelles. « Vraiment, je vous l'assure !» qu'il va prononcer à quatre reprises dans son discours. Elles avaient pour objectif d'attirer l'attention sur l'importance de ce qu'il s'apprêtait à dire. Il confronte ces gens sur les motifs bassement matérialistes qu'ils ont à le chercher et par conséquent leur manque de discernement spirituel. Ils avaient vu des guérisons et la multiplication des pains, mais il ne s'agissait pour eux que d'un repas facilement obtenu. Ils ne se souciaient pas d'en comprendre le véritable sens. Je continue. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père, lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Verset 27. Avec la femme samaritaine, Jésus a parlé de l'eau parce que c'est en cela que résidait sa préoccupation. Quant à ces gens, c'est le pain qui les intéresse. Alors c'est sur cette base alimentaire courante qu'il commence à s'adresser à eux. Jésus engage la conversation avec ce que les gens lui apportent, ce qui est central dans leur vie. En utilisant des éléments tout simples comme l'eau et le pain, il est très terre à terre. En leur disant de ne pas travailler pour la nourriture périssable, Jésus n'encourage évidemment pas la paresse, mais il veut mettre l'emphase sur ce qui compte, sur ce qui est le plus important. Il leur dit qu'ils devraient s'intéresser davantage à la nourriture qui subsiste pour l'éternité. Dans son duel avec le diable, Jésus lui avait dit « L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Fin de citation. Cette nourriture spirituelle est la parole de Dieu ou encore le Christ lui-même, puisqu'il est le Logos, l'expression de Dieu, la parole par excellence. En disant « Dieu le Père a marqué le Fils de l'homme de son sceau », Jésus dit en substance que les miracles qu'il accomplit authentifient l'origine divine de son ministère comme un sceau apposé sur un document officiel. Je continue. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Lui demandèrent-ils encore. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. versets 28 et 29. Les gens croient qu'ils doivent faire des choses, des bonnes œuvres, afin de plaire à Dieu et obtenir ainsi la vie éternelle. Ils sont prêts à se rendre aux exigences de Dieu si toutefois Jésus voulait bien les leur faire connaître. Mais la réponse qu'il leur fit entre en contradiction flagrante avec leur façon de penser. En effet, ils ne pouvaient plaire à Dieu en accomplissant des bonnes œuvres, car il n'y a qu'une seule œuvre que Dieu attend de nous, c'est-à-dire une seule chose qu'il exige. Il veut qu'ils placent leur confiance en celui que le Père a envoyé. À cause des fautes qui me collent à la peau et dont je ne peux me défaire, il m'est impossible de faire quoi que ce soit qui satisfasse un Dieu trois fois saint. Ce qu'il demande, c'est qu'après avoir reconnu ma déchéance, je me tourne vers celui que le Père a envoyé, vers Jésus-Christ, comme mon Sauveur. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.